Moi, j'aimerais bien revenir en fait sur ces questions de freins à l'accès à l'alimentation parce que ça permettrait aussi de développer un petit peu comment on pense pouvoir agir dans le projet Casalim de manière individuelle, mais en fait surtout de manière collective. Comme on le disait, il y a trois freins principaux. Il y a le frein financier, bien sûr, il y a le frein physique et il y a l'accès aux connaissances. Et c'est sur cette base-là que la proposition de caisse locale d'alimentation, de caisse citoyenne d'alimentation, elle paraît pertinente parce qu'elle permet à la fois de créer des espaces dans lesquels les personnes se rencontrent, en sortant un peu de leur entre-soi professionnel, familial, etc., dans lesquels on est souvent enfermé en fait dans nos sociétés, de se rencontrer, de se former ensemble, de créer une base commune de connaissances et de compréhension qui évite aussi un sentiment d'illégitimité dans les prises de décision qu'on peut avoir sur l'alimentation parce qu'on va dire ouais non mais moi ça j'y connais rien ou non, mais ça, mon alimentation, c'est plutôt ça et ça. Donc, c'est vraiment recréer un commun autour de l'alimentation avec des connaissances qui sont partagées pour ensuite prendre des décisions sur l'alimentation qu'on veut, c'est-à-dire sur les conditions sociales et les conditions environnementales de production, de transformation et de distribution de cette alimentation. Et donc, ça, c'est faire sauter le premier frein, on va dire, le frein de l'accès à la connaissance. Et ensuite, ces caisses citoyennes d'alimentation, elles sont adossées à un dispositif solidaire, un dispositif économique solidaire, qui permet à chacun de cotiser, on va dire, entre guillemets, ou de contribuer volontairement selon ses moyens, selon une grille, selon sa situation socio-économique. Donc les personnes les plus précaires vont mettre peu d'argent, et celles qui ont plus vont mettre plus d'argent, mais tout le monde va recevoir le même budget alimentaire, qui, pour les caisses les plus avancées à Toulouse, pour l'instant, est fixé à 100 euros, à la différence de la proposition politique qui est de 150 euros, donc qui est fixé à 100 euros. Donc chacun reçoit ces 100 euros sous forme de monnaie alimentaire que il ou elle peut utiliser au sein du réseau de professionnels qui ont été choisis collectivement par les personnes. Et donc là, on fait aussi sauter le frein financier de cet accès à l'alimentation, reste le frein physique. Et donc ça, ça l'idée, c'est de pouvoir aussi contribuer au développement de distribution d'alimentation de qualité, au maintien, au développement de producteurs locaux, etc., etc. Et donc ça viendra certainement plutôt à moyen long terme dans le projet, avec l'augmentation du nombre d'adhérents à ces caisses qui permettra de créer des débouchés économiques et donc de permettre l'installation de nouveaux lieux de distribution, de nouveaux lieux d'alimentation durable. Et voilà, et donc de faire sauter aussi ce frein
Quand
physique.
tu parles de frein physique, c'est l'endroit où il faut se déplacer pour récupérer
Complètement.
sous
Oui,
quelle
c'est
forme
ça.
ça.
Le frein physique, c'est vraiment l'accès géographique, en fait, à
L'accès
cette
géographique,
alimentation
quoi.
de qualité. Et pour donner un exemple, issu d'un des ateliers qu'on a eu avec le gérant de Ultramarino Sana, une épicerie toulousaine, il nous disait que lui, l'étude qu'il a fait sur ses consommateurs, c'était des personnes qui vivaient à 3 minutes de l'épicerie. En fait, au-delà de 3 minutes, les personnes ne viennent plus. Ils vont aller là où c'est à 3 minutes de chez eux. Donc, en fait, ce frein physique, il est vraiment très, très intense, quoi, un peu fort.
Et je voulais ajouter, oui, hier par exemple, j'intervenais à titre professionnel dans Toulouse, et la personne qui m'a reçu, qui était l'animatrice d'un atelier, m'expliquait que, donc c'était un atelier avec des jeunes, que en fait, on parlait d'un restaurant qui est vraiment un restaurant de super qualité, avec des produits frais, locaux, et qui est très chouette, pas très loin de l'endroit où j'intervenais. Et l'animatrice me disait qu'en fait, l'ensemble des élèves vont dans des fast-food parce qu'il n'y a que ça autour. Et le restaurant, mine de rien, c'est cher. Donc il y a vraiment. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour avoir des difficultés à trouver une alimentation de qualité. Et ouais, j'évoquais aussi, là en l'occurrence, c'était des jeunes. Mais il y a aussi un côté, plus on s'y prend tôt pour apprendre et plus c'est facile. Mine de rien, moi j'ai 43 ans et le projet Casalim m'a appris énormément de choses. J'hallucine assez de m'être nourri tout ce temps-là sans me questionner plus. Alors, enfin, grosso modo, j'ai à peu près mangé tous les jours et il y a plein de questions que je m'étais jamais posées sur la qualité des aliments, sur où on les trouve, comment on les fait pousser. Pourtant, je crois être quelqu'un d'un peu curieux, mais il y a vraiment, ouais, comme on l'évoquait tout à l'heure, mais il y a un côté facilité qui fait que ce côté savoir, le frein qu'évoquait Sarah là sur le savoir. Il est hyper intéressant et il y a vraiment énormément de choses passionnantes parce que c'est pas que de l'alimentation, c'est tout un système politique qu'on peut creuser au travers de ces informations.
La caisse allume est une sorte de mutuelle citoyenne. Et en même temps, elle permet aux agriculteurs aujourd'hui d'avoir la garantie d'écouler leurs produits. Du coup, comme Sarah vient de le dire, ça permet à beaucoup d'épiceries qui n'avaient pas la garantie de vendre leurs produits, de s'implanter et de prendre plus de produits bio, plus de produits de qualité. Et surtout, ça nous permet de choisir ce qu'on veut manger dans notre assiette. Et du coup, elle résout le problème économique, permettre aux agriculteurs d'avoir de gagner suffisamment pour de vendre chaque mois avec la convention qu'on fait avec eux, le conventionné, et résoudre le problème aussi économique. Franchement, c'est l'une des meilleures mutuelles qu'on a aujourd'hui, en tout cas que je trouve, pour qu'on ait les moyens, qu'on soit chômeur, étudiant. Ça nous permet d'être fiers, de se sentir dignes en fait.
C'est un supermarché coopératif et participatif à but non lucratif. Ces bombes sont à la fois les propriétaires, les décideurs et les clients. Alors pourquoi et comment ces citoyens ont décidé de reprendre leur consommation en main? Pourquoi vous avez cherché une alternative à la grande distribution traditionnelle?
Il y a des gens qui n'ont pas accès à une alimentation de qualité. Et puis les producteurs, les gens qui nous nourrissent, ne sont pas rémunérés correctement. Et c'est principalement dans le circuit de la grande distribution qu'il est la mine. Il y a des suicides de producteurs. Il y a des gens qui vivent avec 3, 4, 500 euros par mois maximum. Et pour nous, c'est une situation qui est absolument intolérable. Donc on a voulu essayer de travailler sur la question d'une juste rémunération des producteurs et d'une alimentation accessible à tous, c'est-à-dire à des prix corrects mais justes.
L'un des rouages, c'est l'agriculture. Donc il faut réfléchir en termes d'impact environnementaux. Les pratiques agricoles comme l'agriculture intensive ou biologique, les régimes alimentaires à base de viande ou végétariens ont des répercussions sur la santé, sur les écosystèmes. Votre choix de vos partenaires sera aussi fait sur une logique politique, en cohérence avec vos convictions.
Oui, bon, au-delà des convictions, c'est plus sur les... Enfin, finalement, on a reçu de façon assez objective pas mal d'informations sur les impacts des pratiques agricoles et des régimes alimentaires sur l'environnement, et pas que d'ailleurs, aussi sur la santé. Donc après, avec cette base commune de connaissances, on a pu élaborer un premier jet de critères de conventionnement. Donc ça sera des critères qu'on souhaite appliquer aux aliments qu'on va consommer. Donc pour l'instant, on est en train de faire ce travail, il n'est pas encore finalisé, on n'a pas encore la charte faite finale, mais ça va être de l'agriculture biologique. Ça va être, par exemple, pour les produits qui sont importés, vu que finalement, en fonction de nos habitudes alimentaires, certains consomment des produits qui viennent de plus loin, d'avoir des labels équitables, par exemple. Donc ça va être un ensemble de critères qu'on est en train de mettre en place. Donc c'est d'avoir une charte avec les agriculteurs, mais pas que les agriculteurs d'ailleurs, vu que c'est vrai que là, on se focalise sur les agriculteurs, mais en fait, c'est tous les professionnels de l'alimentation. Donc ça peut être... des magasins spécialisés bio, ça peut être des épiceries. Donc voilà, donc il y a à la fois une charte avec les agriculteurs, mais aussi avec tous les professionnels. Et donc l'objectif, c'est d'avoir un impact le moins important possible, en tout cas sur l'environnement, même si on le voit très bien, c'est compliqué de tout contrôler, et c'est pas non plus notre objectif, mais c'est au moins d'enclencher une dynamique avec l'ensemble de ces professionnels, quitte à en convaincre certains de changer peut-être leurs habitudes, sachant qu'ils pourront compter en tout cas sur un pool de consommateurs qui sera présent et qui sera dans le quartier.
Donc on l'a bien vu, l'alimentation, bien plus qu'une simple nécessité biologique, elle est façonnée par des forces sociales complexes qui reflètent les valeurs, les croyances et les dynamiques de pouvoir d'une société donnée. C'est social, à savoir être ensemble et se reconnaître, c'est identitaire, on l'a vu au début, l'appartenance culturelle, et c'est hédonique, ça a également été évoqué par le plaisir de manger. Donc avant de détailler un petit peu plus les fonctionnements de la caisse Alim, on peut peut-être écouter un premier son qui n'a pas du tout été choisi par hasard. Je pense que Bibi peut le présenter.
Oui,
t'es concernée. Donc.
Oui, alors j'ai écrit la chanson pour interpeller. Il faut penser aux autres. La chanson, elle parle d'aider, faire ce qu'on peut pour nos semblables, pour les autres, même si on sait qu'ils ne peuvent pas nous retourner l'ascenseur. mais d'être humain. C'est ça qui fait la beauté de l'être humain et de l'humanité. La chanson parle de l'unité, d'aider les autres, d'être solidaire, comme notre projet, La Caisse Allume. Et là, juste pour dire que la chanson, je suis malienne, du coup la chanson elle est en bamana, en langue bamana. C'est une langue mandingue.
Retour sur les ondes de Canal Sud 92.2 MHz avec la Caisse Allume de Toulouse.
Et je voulais revenir peut-être un petit peu sur le lien entre sécurité sociale de l'alimentation et l'ensemble des expérimentations, comme le disait Sikadje. Il y a beaucoup d'expérimentations aujourd'hui en France. Il y en a une qui est très en avance, qui est celle de Montpellier. Je pense que c'est la première en fait qui a été mise en place. Il y en a deux à Bordeaux, une sur avec des étudiants et une justement sur des territoires, enfin qui mélange territoires ruraux et territoires urbains. Et puis il y en a une en Alsace, une à Grenoble, une à Paris, une à Tours, une dans le Vaucluse. Enfin bon, il y en a beaucoup. Il y en a presque plus d'une dizaine certainement qui sont à des stades différents de mise en place et de fonctionnement. Et c'est quoi le lien en fait entre le collectif national pour une sécurité sociale de l'alimentation qui porte la proposition politique et qui la développe et ces expérimentations? En fait, en 2021-2022, il y a déjà pas mal d'expérimentations qui ont contacté le collectif national en disant bah voilà, la sécurité sociale de l'alimentation, ça nous parle, on a envie de contribuer à la diffusion de cette idée, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et on a commencé à mettre en réseau toutes ces expérimentations. qui n'étaient pas que des expérimentations de caisses locales telles qu'elles sont pensées dans le projet politique, ça c'est venu un petit peu après, mais qui étaient d'autres projets citoyens de solidarité alimentaire, de démocratie alimentaire. Donc de cette mise en réseau est né le réseau des dynamiques locales pour une sécurité sociale de l'alimentation, qui fin 2022 a intégré le collectif national. Donc dans le collectif national, on n'avait que des organisations nationales à la base, les CIVAM, la Confédération Paysanne, Réseau Salaria, Ingénieurs Sans Frontières Agrista, où je suis, et quelques autres. Et aujourd'hui, on a à la fois ces grosses organisations nationales et des petites organisations de citoyens ou des caisses locales de sécurité sociale de l'alimentation. Et ça, ce développement-là, il intègre directement la stratégie du collectif. Parce qu'on disait, oui, effectivement, ça reste un objectif qui paraît quand même assez lointain, difficile à atteindre, de mettre en place cette SSA. Comment faire pour y arriver? Et il y a plusieurs chemins, en fait, qui doivent être pris en même temps. Il y a à la fois faire parler de cette proposition, avoir ce qu'on appelle une adhésion populaire majoritaire. Et donc les expérimentations de caisses locales de sécurité sociale, ça permet à la fois de faire parler de la SSA, de faire découvrir, connaître la SSA à des citoyens, mais ça permet aussi de faire du plaidoyer politique au niveau des collectivités locales. Parce que le financement de ces dispositifs, et c'est en ça où finalement, même si la proposition de SSA elle paraît loin, la difficulté pour ces expérimentations, c'est vraiment le côté économique, enfin financier. C'est des projets qui sont difficiles à financer, en fait, sur des petites échelles. Parce que ça demande quand même beaucoup de sous. Et donc, ces sous, il faut aller les chercher donc, auprès de fondations privées ou auprès des collectivités locales. Et donc, ça permet aussi de commencer à parler avec les élus des métropoles, des mairies, les élus des départements et des régions de ce projet-là. Et comme le disait très bien Guillaume, plus on va avoir de caisses locales sur le territoire et plus on va créer l'existant qui, en fait, en Carantie, ça a amené à la mise en place du régime général de sécurité sociale qui, en fait, est venu uniformiser tout un tas de mutuelles de santé ou de caisses de santé qui existaient déjà. Donc, finalement, quelque part, on s'inscrit un peu dans les pas, dans l'histoire française, et on essaye de créer cet existant qui pourrait permettre de mettre en place ensuite une SSA.
Une sécurité sociale alimentaire.
Il faut sortir de la politique pour les pauvres, et ça, c'est important. Aujourd'hui, quand on va chez le médecin, on est tous remboursés, et j'ai jamais entendu un riche se plaindre d'être remboursé chez le médecin.
Est-ce qu'on peut dire que cette idée de sécurité sociale d'alimentation est une idée aussi fondatrice, peut-être aussi fondatrice, que la sécurité sociale d'après-guerre?
Elle transpose, hein, en matière d'alimentation, ce qui a été construit dans les années 60 en matière de santé, bien sûr. Hein, nous sommes dans la même ligne que le régime général de sécurité sociale de 46, hein, d'Ambroise Croizat, qui n'est pas la Sécu. Hein, la Sécu, c'est les patrons qui, entre 1880 et 1945, font une institution patronale et que les communistes vont subvertir totalement par le régime général en 1946, hein, qui donc est une subversion de la Sécu. Hein.
Et au niveau du collectif national, il y a aussi un plaidoyer politique qui se fait au niveau des députés de l'Assemblée nationale. L'un des objectifs serait de faire un premier pas institutionnel vers une SSA en demandant un droit à l'expérimentation, c'est-à-dire doter une collectivité, qui peut être une région, un département, une métropole, de compétences qu'elle n'a pas. Et notamment de la compétence de prélever de la cotisation sociale. Et donc ça, c'est des choses qu'on travaille. Et si un droit à l'expérimentation d'une sécurité sociale de l'alimentation se mettait en place dans une région, elle pourrait s'appuyer sur ce qui existe déjà, c'est-à-dire ces expérimentations locales avec des citoyens déjà engagés, déjà militants et un fonctionnement déjà en place.
Comment rester indépendant?
Pour compléter sur le risque que tu évoquais, le côté un peu, si je le traduis avec mes mots, moi j'ai un peu l'impression que tu évoques le risque que le projet soit peut-être édulcoré dans le temps, que s'il prend une plus grande échelle, et ben il soit un peu déconstruit. En tout cas, moi je me dis que en effet ce risque il existe et c'est intéressant d'en avoir conscience. J'aime bien des fois prendre le parallèle avec la Convention citoyenne pour le climat. C'est-à-dire que tu as des individus qui ont été accompagnés, qui ont été formés, qui ont pris de la connaissance et qui ont soulevé des sujets et des propositions concrètes, intéressantes. Et en effet, il y a un risque que ces propositions, enfin, ou que le projet Kessalim soit alors déconstruit, ou peut-être que le mot est trop fort, mais en tout cas édulcoré dans le temps. Ben, moi, je dirais que c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est le fait de rester actif, de déguiser un peu cette conscience et cette vigilance. Voilà, on parlait tout à l'heure de confiance dans un système, ben de garder cette confiance, mais en tout cas pas la donner aveuglément. Et moi j'ai l'impression qu'on n'a pas envie d'être dépossédé de ce projet. Tout à l'heure je t'écoutais, je me disais c'est marrant, aujourd'hui si j'avais une baguette magique et que j'étais capable de dire ce projet il est voté et c'est un projet qui devient national et il n'y a plus de caisse locale, je crois pas que j'utiliserai ma baguette magique parce qu'en fait on le disait tout à l'heure, il y a un savoir, il y a une éducation qu'on est en train de développer, il y a aussi une expérience humaine, on l'a pas trop évoqué, mais en fait notre fonctionnement, moi je le trouve hyper intéressant, hyper riche, on a des parcours et des fonctionnements différents et on arrive à échanger dans le respect, dans l'écoute en ayant un fonctionnement de groupe qui, moi, me semble déjà hyper, hyper intéressant, hyper efficace, mais sans perdre les individualités qui sont aussi cool, avec des attitudes et des fonctionnements différents. Donc, tout ça pour dire que j'utiliserai pas une baguette magique pour faciliter l'accélération du projet. Je trouve que, on parlait d'expérimentation. L'expérimentation, il y a une grande richesse. Le côté essai, le côté peut-être à certains égards de se tromper, d'accepter de se tromper et de corriger. Bon, alors moi je suis un grand optimiste, peut-être un grand naïf, je sais pas, mais que en fusionnant ou en échangeant sur les expériences des uns et des unes et des autres sur l'échelle, à une échelle régionale puis nationale, on arrive à quelque chose qui est opérant et pendant tout ce temps-là, on a aiguisé notre conscience et qu'à un moment où ça devient quelque chose de national, eh bien, on soit pas complètement dépossédé, on garde un peu... ça fait un peu le lien avec ce qu'on évoquait sur la citoyenneté, on garde un regard qui est aiguisé sur comment on met ça en œuvre à une échelle nationale.
Et finalement, il va falloir qu'on soit assez convaincant avec les députés pour que, justement, ils aient du corpa, le projet politique. Donc après, c'est aussi tout le travail du collectif de montrer les bons arguments et de sensibiliser suffisamment les politiques, en espérant qu'ils nous écoutent et qu'ils nous entendent.
Après, toutes les échelles sont intéressantes. L'échelle nationale, elle est indispensable si on veut proposer quelque chose qui soit systémique, qui soit universel, etc. Par contre, la question de fond, qui est abordée au travers de la dépossession qu'il pourrait y avoir du projet, c'est la question démocratique, en fait. Et au-delà de ça, c'est la question du passage à l'échelle, ce qu'on appelle souvent le passage à l'échelle, de ces alternatives alimentaires qui existent et qui restent très cloisonnées, très locales. Et finalement, ce qu'on cherche à travailler dans le projet Casalim, c'est pas un passage à l'échelle par la fusion, mais plutôt par l'organisation. Et plusieurs niveaux d'organisation de petites échelles très locales qui, elles, permettent effectivement un fonctionnement démocratique. Et c'est à partir de là, c'est si on arrive à créer cette organisation entre les quatre caisses de Toulouse pour faire la caisse citoyenne d'alimentation de l'aire urbaine toulousaine, et ensuite entre cette caisse de l'aire urbaine toulousaine avec les autres caisses qui sont en Occitanie, à Montpellier, dans l'Aude, en Ariège, et ensuite entre ces caisses de région avec les autres régions, et qu'on arrive à articuler ces différentes échelles pour que chacun ait encore quelque chose à dire et que ce soit pas... après ça peut être aussi lourd, éviter aussi la lourdeur de ces différentes échelles. Normalement on devrait arriver à faire quelque chose d'intéressant, sachant que en fait ça reste une expérimentation humaine. Aujourd'hui la démocratie c'est un concept qu'on cherche à expérimenter, à pratiquer, on ne sait pas exactement comment ça doit marcher, et nous, à notre échelle, on cherche aussi à contribuer à ça.
Clairement, d'où l'intérêt de garder quand même la mainmise sur ce type de projet. Moi j'ai l'impression que la politique institutionnelle, c'est quand même tout l'inverse de ce que l'on est en train de parler. Il y a des enjeux de pouvoir, des enjeux d'ego, des enjeux de communication. Il faut penser globalement et agir localement.
Mais il y a une différence quand même entre la gestion d'un commun de manière démocratique et l'État.
C'est ça.
L'État, c'est une centralisation. Finalement, le commun appartient à l'État et c'est à ce moment-là qu'on est dépossédé des questions qui nous concernent. Et qu'on passe par des élections, avec tout ce qu'il peut y avoir de bien ou de pas bien dans ce système-là. La sécurité sociale de l'alimentation telle qu'elle a existé en 1946, alors elle n'était pas parfaite, on n'est pas en train de dire qu'avant c'était mieux ou il y avait plein de trucs qui n'allaient pas, mais l'idée c'est de comprendre ce qui marchait, ce qui marchait pas et essayer de faire mieux aujourd'hui, c'est de faire l'alimentation un commun qui appartienne à chaque personne et pas à un État centralisé. Et c'est ce que j'essayais de dire en disant il faut réussir à organiser les différentes échelles pour que chacun ait encore sa place et un mot à dire sur ce qu'ils mangent et comment c'est produit.